toujours à l'écoute de RFI. Bienvenue à vous pour un nouveau journal. Il est 1h à Paris.
Mathis Limano.
Attaque virulente contre la France à la COP29 ce mercredi de la part du président de l'Azerbaïdjan. Conséquence, la ministre française de la transition écologique annule son déplacement à la conférence. Une plateforme médiatique toxique, les mots du Guardian, le journal britannique a annoncé quitter le réseau social X. Et puis, en fin de journal, plongé dans les salles obscures pour le nouveau film du réalisateur français Claude Lelouch. Son nom, finalement.
RFI.
Ce sont des propos très durs qui ont été tenus à l'encontre de la France ce mercredi à la COP29 par le président azerbaïdjanais, dont le pays reçoit depuis le début de la semaine la conférence climatique. Pour Ilham Aliyev, la France a commis des crimes en Nouvelle-Calédonie et des violations des droits humains, des accusations virulentes, inhabituelles dans le cadre d'une COP et qui témoignent de la très vive dégradation des relations entre Paris et Bakou. Les précisions de Daniel Valot.
Ce n'est pas la première fois que l'Azerbaïdjan attaque la France pour sa gestion de la crise en Nouvelle-Calédonie. Mais cette fois, les propos d'Ilham Aliyev sont prononcés dans le contexte d'une conférence internationale et dans des termes particulièrement virulents. Le président azerbaïdjanais évoque notamment les crimes de la France dans ses prétendus territoires d'outre-mer et les violations des droits de l'homme perpétrées, je cite, par le régime d'Emmanuel Macron.
Après tout cela, la France n'a été dénoncée ni par la Commission européenne, ni par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. C'est de l'hypocrisie politique. Le Parlement européen et l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe partagent avec le gouvernement du président Macron la responsabilité des meurtres d'innocents.
L'allusion à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe n'est pas anodine. L'Azerbaïdjan a en effet été suspendu de cette assemblée en début d'année pour la répression exercée sur l'opposition et sur les médias indépendants du pays. Quant à la France, si elle se retrouve elle aussi dans le collimateur du président azerbaïdjanais, c'est avant tout en raison de l'aide apportée par Paris à l'Arménie depuis qu'en 2023, l'Azerbaïdjan a repris par les armes le contrôle du Haut-Karabakh. Cette crispation des relations diplomatiques entre la France et l'Azerbaïdjan s'est traduite par le soutien très appuyé apporté par Bakou à la cause indépendantiste dans les territoires d'outre-mer français et en premier lieu en Nouvelle-Calédonie.
Et le commissaire européen au climat, Wopke Hoekstra, a déploré ces attaques contre la France et les institutions européennes, rappelant à Ilham Aliyev son devoir de neutralité en tant qu'hôte de la COP29. Et en réaction à ses déclarations, la ministre française de la transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, a annoncé qu'elle ne se rendrait pas à la COP29 à Bakou, qualifiant d'attaque inacceptable les propos d'Ilham Aliyev et l'accusant d'instrumentaliser la lutte contre le dérèglement climatique pour un agenda personnel indigne. Aux États-Unis, Donald Trump n'entrera pas à la Maison-Blanche avant le mois de janvier. Mais le président élu commence déjà à former son cabinet. Il a notamment confirmé qu'Elon Musk, le patron de Tesla, et le milliardaire Vivek Ramaswamy allaient prendre la tête d'un ministère de l'efficacité gouvernementale. Nathanaël Vitran, une nomination source de nombreux conflits d'intérêts.
Dans son communiqué, Donald Trump fixe la feuille de route. Ensemble, ils devront démanteler la bureaucratie fédérale, supprimer les régulations excessives et tailler dans les dépenses inutiles. En meeting fin octobre, le milliardaire Howard Lutnick avait sondé avec gourmandise Elon Musk.
Combien pensez-vous que nous pouvons tirer de ce gaspillage budgétaire ?
Au moins 2000 milliards de dollars, lâche alors l'homme le plus riche du monde, quasiment un tiers du budget fédéral. Un budget qui profite pourtant largement à ses entreprises et surtout à SpaceX. L'entreprise spatiale de Musk a bénéficié de 15 milliards de dollars de contrats publics, que ce soit pour la NASA ou le Pentagone. L'État fédéral est à la fois un de ses principaux clients et un concurrent potentiel. Le patron de Tesla et du réseau social X a aussi tout intérêt à affaiblir les ministères de l'énergie, du transport, de l'environnement ou du commerce qui régissent son activité. Quant au milliardaire, encore un, Vivek Ramaswamy, il promet lui une deuxième déportation de masse.
La déportation de millions de bureaucrates non élus hors de Washington DC.
Vivek Ramaswamy qui a fait fortune dans les biotechnologies, l'industrie pharmaceutique l'une des plus régulées au monde et pour cause il s'agit de santé publique, en tout cas jusqu'à présent.
Donald Trump reçu ce mercredi par Joe Biden. Poignée de main cordiale entre deux hommes qui se détestent. Joe Biden lui a souhaité un bon retour à la Maison Blanche. Lui qui, il y a peu, qualifiait Donald Trump de danger pour la démocratie. L'équipe du nouveau président qui continue donc de se dessiner, son nom tourné, et c'est désormais officiel. Marco Rubio devient le nouveau visage de l'Amérique à l'international. Le sénateur de Floride, connu pour ses positions anti-Chine, prend la tête de la diplomatie. Enfin, c'est une transfuge du Parti démocrate qui vient à la tête également de la Direction nationale du renseignement. Son nom, Tulsi Gabbard, elle a quitté le parti de Kamala Harris il y a à peine 3 mois pour se rallier à Donald Trump. Une nomination qui fait grincer des dents en Ukraine. Et pour cause, Tulsi Gabbard s'est de nombreuses fois illustrée pour son soutien à la Russie. 4e série de frappes en 24 heures sur la banlieue sud de Beyrouth. Les images de l'agence France Presse montrent une épaisse colonne de fumée s'élever au-dessus du secteur. Secteur qui a fait l'objet d'un appel à évacuer publié par l'armée israélienne sur X. X, le réseau social boudé par le quotidien britannique Le Guardian. Le journal de centre-gauche qualifie X de plateforme médiatique toxique, bien que suivi par 27 millions de personnes. Christophe Paget, Le Guardian ne publiera plus rien sur le réseau social.
Nous y réfléchissions depuis longtemps, explique le Guardian, à cause du contenu qu'on trouve sur X ou que la plateforme promeut directement, comme des théories complotistes d'extrême droite ou du racisme. Cette décision, le quotidien l'a prise suite à la campagne pour la présidentielle américaine, qui, explique-t-il, n'a fait que souligner ce que nous considérons depuis longtemps. X est une plateforme médiatique toxique et son propriétaire Elon Musk a su utiliser son influence pour façonner le discours politique. Elon Musk est, depuis son rachat de Twitter en 2022, critiqué par l'Union européenne et par des groupes combattant les discours de haine. Il a réduit au minimum la modération sur le réseau et a permis à certaines figures qui en avaient été bannies d'y revenir, comme Donald Trump, le conspirationniste Alex Jones ou encore le militant anglais d'extrême droite Tommy Robinson. Le Guardian n'est pas le premier média à quitter X. L'an dernier, deux médias américains, NPR et PBS, étaient partis après avoir été labellisés par la plateforme « médias financés par le gouvernement ». Réaction d'Elon Musk au départ du Guardian, ils sont insignifiants.
Christophe Paget, le corps d'une femme retrouvée ce mercredi dans une voiture en Suisse. Il s'agirait de la mère des 3 enfants tués au foyer familial à Taninges dans les Alpes françaises. La voiture a été retrouvée à 70 km de là. Des vérifications sont en cours pour déterminer s'il s'agit bien du corps de la mère. Elle était activement recherchée. France toujours, 5 ans d'inéligibilité requis contre Marine Le Pen. La présidente du Rassemblement national à l'Assemblée jugée comme 24 autres personnes dans l'affaire retentissante des assistants parlementaires. Une peine assortie d'une exécution provisoire, demandent les procureurs, c'est-à-dire qu'elle s'appliquerait immédiatement, même en cas d'appel du jugement. L'accusation requiert aussi 5 ans de prison, dont 2 fermes aménageables à l'encontre de Marine Le Pen, qui dénonce la violence et l'outrance des réquisitions du parquet. Et s'il vous disait à présent Les Misérables, roman de gare ou encore Un homme et une femme, ce mercredi est sorti dans les salles françaises le nouveau et 51e long métrage de Claude Lelouch, film qui a déjà séduit la Mostra de Venise et le Festival de Deauville. Finalement, c'est le titre et c'est l'histoire d'un homme qui, un beau jour, décide de tout plaquer, Elisabeth Le Quéré.
Est-ce qu'on peut échapper à sa vie ? Et surtout à l'envie de goûter toutes les autres vies possibles, celles qu'on voit filer au loin à l'approche de la cinquantaine. Avocat parisien réputé, Lino Cadmerade, envoie tout valser, boulot, femmes et enfants. Comme un malfrat en cavale, comme un adolescent en goguette, il se fait la belle, un voyage qui l'entraînera de ville en ville et de femme en femme. Claude Lelouch.
On est dans un monde de contraintes et... il y a pas mal de prisons, notre travail, la famille font que on est à 2 doigts du burn-out et donc il a envie de s'offrir une récréation avec lui-même, il a envie de se retrouver lui-même. Et c'est vrai que dès qu'il tombe sur des gens intolérants, la machine à vie se remet en route, voilà. Et encore une fois, c'est la force du positif sur le négatif, quoi.
Donc finalement, Claude Lelouch semble rejouer tout son cinéma, c'est décousu. Avec une intrigue des plus improbables, tissée de dialogues qui fustigent volontiers cette époque où l'on ne peut plus rien dire, il faut alors se laisser guider par les formidables acteurs du casting, Cadmerade, Françoise Fabian, Michel Boujna ou encore Sandrine Bonner, car ce sont eux qui donne vie à cette fable échevelée.
Elisabeth Le Quéré. Et puis en tennis, Alexander Zverev fait un grand pas vers les demi-finales des Masters ATP. L'Allemand, récent vainqueur du Masters 1000 de Paris, a battu en 3-7 le Norvégien Casper Ruud. Carlos Alcaraz a lui retrouvé des couleurs face à Andrei Rublev, victoire en 2-7. L'Espagnol qui retrouvera justement Alexander Zverev vendredi à 13h, temps universel. Merci à vous d'avoir suivi ce journal.